RFI, il est 19h30 en temps universel, 21h30 à Maputo, le journal.
Afrique Soir sur RFI, Pierre Boudias.
Le M23 poursuit son avancée dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles soutenus par le Rwanda se sont emparés d'une localité dans le territoire de Lubero. Les miliciens alliés à l'armée congolaise contraints de se replier. L'opposition ne désarme pas au Mozambique. Week-end d'affrontement avec la police en soutien au candidat malheureux Venancio Mondlane. Il conteste toujours le résultat des élections générales du mois dernier. L'Afrique du Sud coupe vivres et approvisionnement aux mineurs illégaux. Méthode choisie par Pretoria pour interpeller des centaines de travailleurs retranchés dans un puits abandonné. Près de 600 d'entre eux ont déjà été arrêtés. Et puis le cinéma africain à l'honneur à Besançon. Depuis hier soir, la ville française accueille le festival Lumière d'Afrique. Le génocide au Rwanda sera au cœur de cette 24e édition. Le M23 poursuit son avancée dans le Nord Kivu. Les rebelles soutenus par le Rwanda ont pris ce matin le contrôle de l'agglomération de Kamandi-Jit, située dans le territoire de Lubero, à l'est de la RDC. Conquête de cette ville située à 130 km au nord de Goma après des combats contre les Wazalendo, miliciens alliés à l'armée congolaise. Pierre Firsian.
Des combats sont signalés ce soir dans le territoire de Masisi, dont la localité de Kaoura. Des habitants parlent de tirs à l'arme lourde. Plus au nord, des tirs ont également été entendus en début de soirée à Kamandi-Port, alors que Kamandi-Jit est tombé ce matin aux mains des rebelles. Ces derniers ont, selon des sources concordantes, mené tôt ce dimanche matin une attaque surprise visant les positions des Wazalendo. Après des tirs à l'arme lourde, les combattants du M23 ont réussi à s'emparer de la ville sans beaucoup de résistance, indique des sources locales et sanitaires. Un membre de la société civile de Kamandi-Jit confie au micro que ces combattants seraient des centaines bien équipés et qu'ils auraient visiblement l'intention de se diriger vers Butembo. Situé au bord du lac Édouard, Kamandi-Jit ouvre une voie vers le territoire de Beni. Cette offensive opérée par les rebelles a entraîné pour l'heure de nouveaux déplacements de population.
Pierre Firsian. Des affrontements alors que le processus de paix de Luanda a connu une nouvelle avancée. Les experts de la RDC et du Rwanda se sont en effet mis d'accord sur un plan de désengagement des forces et la neutralisation des FDLR, milice Hutu créée en RDC contre le pouvoir de Paul Kagame. Un accord que les ministres doivent encore valider lors du prochain round de négociations le 16 novembre prochain dans la capitale angolaise. La foudre fait 14 morts en Ouganda. Des réfugiés sud-soudanais qui s'étaient abrités dans une église de fortune du nord du pays. Face à un violent orage, les victimes sont âgées d'entre 14 et 18 ans, selon le gouverneur de la région de Lamuo, qui dit travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour venir en aide aux survivants. Le Tchad menace de se retirer de la force multilatérale mixte de lutte contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Une force à l'origine créée en 1994 face au banditisme et composée d'éléments des armées nigérianes, nigériennes, camerounaises, béninoises et tchadiennes. Dans un communiqué de la présidence tchadienne, N'Djamena constate, je cite, « une absence de mutualisation des efforts au sein d'une force qui semble tomber dans la léthargie ». Fin de citation, coup de semonce, alors que le 27 octobre dernier, une attaque d'une des factions héritières de Boko Haram sur une base militaire a fait au moins une quarantaine de morts dans les rangs de l'armée tchadienne dans la région du lac. Toujours pas d'accord en vue entre pouvoir et opposition au Mozambique. Ce week-end a été marqué par de nouveaux affrontements dans la capitale et en région. Ils ont opposé forces de l'ordre et partisans de Venancio Mondlane, candidat malheureux aux élections générales d'octobre dernier. Ce dernier conteste la victoire du parti au pouvoir Frelimo et la réélection du président Daniel Chapo. Alors que les manifestations ont déjà fait 11 morts depuis l'annonce des résultats, il appelle ses partisans à paralyser le pays. Et selon Nicolas Delaunay, analyste principal sur le Mozambique pour l'International Quest, Crisis Group, Venancio Mondlane adopte pour l'instant une stratégie jusqu'au boutiste.
Dès le lendemain de l'élection, il affirme que c'est lui qui a gagné l'élection. Dans ses discours très longs, qui durent généralement 45-50 minutes sur Facebook, lors desquels il s'adresse à ses supporters, il utilise des mots qui sont extrêmement forts, tels que révolution, sur la nécessité du sacrifice, de passer plusieurs jours sans travailler lors des grèves. Il parle de l'occupation de Maputo, il parle de la possibilité que le peuple prenne le pouvoir, au point qu'on peut même penser que, en fait, Mondlane est en train de s'enfermer, en fait, dans un discours jusqu'au boutiste, qui va pas lui permettre de se sortir de cette situation si jamais il n'obtient pas la présidence, qui est a priori le scénario le plus probable. S'il fait le moindre compromis envers le Frelimo ou envers le gouvernement, il passera auprès de ses supporters comme étant celui qui a fléchi. Et donc voilà, le fait qu'il s'enferme dans cette posture est pas forcément heureux pour le potentiel de violence qu'on peut avoir dans le pays et puis pour l'avenir du pays de manière générale.
Le chercheur Nicolas Delaunay, RFI, il est 21h35 à Pretoria et ses interpellations massives en Afrique du Sud. Près de 600 travailleurs qui exploitent clandestinement des sites miniers ont été arrêtés dans la ville aurifère d'Orkney, dans le district Klerksdorp. Alors qu'ils étaient à l'intérieur d'une mine, la police a coupé leur ravitaillement en eau et en nourriture afin de les obliger à sortir et à se rendre. L'opération est toujours en cours. Les forces de l'ordre espèrent ainsi faire sortir des centaines d'autres clandestins, s'est dit Yansané.
Selon l'AFP, les agents de la police sud-africaine ont décidé de couper les vivres aux clandestins cachés dans ce puits de mine abandonné de la ville d'Orkney. Les forces de sécurité ont bloqué les voies de ravitaillement qu'utilisent les complices des mineurs. Petit à petit, la faim et la soif ont pris le dessus, ce qui a contraint les clandestins à refaire surface avant que les forces de l'ordre ne les arrêtent. Au total, il y a eu 565 interpellations de Zama-Zama. C'est ainsi que l'on surnomme ces mineurs illégaux, généralement originaires des pays voisins. Cette opération de police était toujours en cours ce dimanche afin de pousser des centaines, voire des milliers de ces Zama-Zama à regagner la surface. Sur la dernière année, plus de 13 000 mineurs clandestins présumés ont été arrêtés par les forces de l'ordre. La police a également saisi des sommes en espèces, mais surtout des diamants bruts pour une valeur avoisinant les 2 millions de dollars.
Sidi Yansané, direction Besançon maintenant, la ville française, ville de naissance des Frères Lumière, accueille depuis hier la 24e édition du Festival international des cinémas d'Afrique, connu sous le nom Lumière d'Afrique. 35 longs métrages de 24 pays seront projetés dans le cadre de ce festival avec des rencontres, des débats. Un focus sera consacré cette année au Rwanda qui fête le 30e anniversaire de la fin du génocide. Écoutez Gérard Marion, il est directeur de ce festival.
Alors, on va focuser sur le Rwanda avec deux documentaires qui sont présentés. La section compétition documentaire de Besançon, ce sont des documentaires de création, des choses qui nous parlent beaucoup. Et là, ces deux propositions qui sont complètement différentes, 30 ans après, c'est comment le pays se reconstruit. Donc, c'est ça qui est intéressant, comment le regard des cinéastes est posé sur ce pays qui se reconstruit.
Outre ce focus sur le Rwanda, de beaux événements musicaux seront attendus, comme le film documentaire Bezakine.
Alors, oui, on a quelque chose d'assez intéressant à Besançon, c'est qu'on a José Chongou et son groupe qui s'appelle Green Shop, qui travaillent depuis de très très nombreuses années, et on a la restitution en image d'une résidence qui a eu lieu à Kinshasa au mois de janvier. Ça s'appelle Bezak In, comme Bezak, le diminutif de Besançon, et King comme Kinshasa. Et on va être friands, parce que c'est un documentaire sur les échanges musicaux, culturels entre Besançon et Kinshasa à travers de projet extraordinaire dans un endroit fantastique, dans un quartier de Kinshasa, et ça swing, ça bouge, ça danse, c'est plein de vie, c'est extraordinaire.
Gérard Marion au micro de Ouda Ibrahim. Et puis du cyclisme, et le 35e Tour du Faso s'est achevé ce dimanche. Sans surprise, c'est le Marocain Morcine El Kouraji qui a terminé avec le maillot jaune sur les épaules. Maillot qu'il a conservé de la première à la dernière étape grâce à ses efforts personnels et à la solidarité d'une équipe du Maghreb quasiment irréprochable tout au long du circuit. On écoute le vainqueur.
La première étape, nous avons gagné le maillot jaune. Et deuxième étape et troisième jusqu'à la fin. Toujours travail beaucoup, parce que les coureurs, Belgique, Hollande, c'est très très dur. Et nous, garder le maillot jaune à la fin du tour. Je remercie pour mes amis, l'Arbaoui et Driss Lanouani. Driss Lanouani a gagné le maillot de deuxième. Et nous, très heureux parce qu'il y a beaucoup d'expérience pour nous. Félicitations pour l'organisateur du Tour de Burkina.
Et le podium était 100% marocain puisque Morcine El Kouraji est accompagné par Driss El Alouani, deuxième, et Adil El Arbaoui, troisième, pour être tout à fait complet. C'est le russe Anton Popov qui a reçu le maillot vert. Sa présence et celle de son équipe avaient valu à cette édition d'être retiré du calendrier de l'Union Cycliste Internationale, décision contestée par Ouagadougou. Sport toujours, et le Kenya à l'honneur lors du marathon de New York. La coureuse Sheila Chepkirui s'adjuge la course qui se tenait ce dimanche. Elle devance sa compatriote Hélène Obi Sibérie en 2h24 et 35 secondes. Chez les hommes, c'est le Néerlandais Abdi Nagaï qui s'offre la course en 2h07 et 39 secondes. Deux Kenyans complètent le podium, Evan Chebert et Albert Cory. Et puis un tout petit mot de football, puisque le choc en Premier League s'est terminé ce soir. Résultat, un but partout entre Manchester United et Chelsea. Manchester United 13e, Chelsea 4e de Premier League. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.